matin à tous, Église Le Sentier, vous allez bien? Quelle belle journée aujourd'hui pour venir à l'Église. Quatre personnes qui vont se faire baptiser. J'espère que vous savez que quand on a un dimanche de baptême comme ça, c'est un des plus beaux matins qu'on a dans l'Église parce qu'il y a quatre personnes qui vont venir nous raconter qu'est-ce que Jésus a fait dans leur vie, comment Jésus a intervenu dans leur vie, puis qui vont dire à Jésus, nous, on veut te suivre, Jésus, toute notre vie, on veut te suivre. Alors, quelle célébration. J'espère qu'on est dans la joie ce matin d'assister à ces baptêmes-là. J'aimerais souhaiter la bienvenue si vous êtes ici, peut-être vous êtes en visite pour voir un des baptisés qui va venir donner son témoignage tantôt. Donc, on vous souhaite la bienvenue si vous êtes ici comme visiteur ce matin. Et nous, on aime ça, gâter nos visiteurs. On a un beau café en arrière et puis on voudrait vous donner un café à la fin. Toutes les sortes de cafés qui existent, on les fait. Et puis, je pense. C'est pas moi qui ai fait, donc j'imagine. Si tu es intéressé à notre kiosque d'accueil, on peut, si tu aimerais ça savoir plus à propos de l'Église Le Sentier, que tu aimerais avoir plus d'informations sur Dieu et sur la Bible aussi, on aimerait ça pouvoir te parler, donc tu peux donner ton nom et on va te contacter. On plonge tout de suite dans le message ce matin. Comme vous savez, depuis quelques semaines, depuis l'automne, on est dans cette série Marc Opération Sauvetage. Et puis, ce qui m'a vraiment béni dans la lecture de l'Évangile de Marc, et si tu n'as jamais lu l'Évangile de Marc, je t'encourage à le lire, ce qui m'a vraiment béni, c'est de voir comment est-ce que Jésus, toutes les rencontres de Jésus avec les différentes personnes dans cet Évangile, on voit que Jésus s'intéresse aux négligés de la société. Les gens que personne n'avait intérêt à passer du temps avec, les gens même que la plupart des gens de la société juive de l'époque disaient qu'il ne fallait pas s'associer, il ne fallait pas prendre du temps avec ces personnes-là. Et Jésus, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait prendre du temps avec toutes ces personnes-là. Les personnes qu'on disait impures parce qu'il y avait peut-être une maladie et que si on les touchait, on allait devenir impur. Jésus allait vers eux. Les personnes malades, les personnes aveugles, les pauvres, ceux qu'on appelait les pécheurs, ceux qui ne se conformaient pas aux règles de l'époque. Jésus passait du temps avec eux. Et constamment, les Juifs, les spécialistes de la Bible à l'époque, ils regardaient et ils disaient, « Qu'est-ce que Jésus est en train de faire à prendre du temps avec ces gens-là? » C'est comme si, il y avait cette notion-là que Dieu n'était pas accessible pour la plupart des gens puis qu'il fallait être très performant religieusement pour pouvoir avoir accès à Dieu, mais qu'en réalité, Jésus, il disait, « Regardez à quel point je suis accessible. » Regardez à quel point je peux mettre tout le monde ici, tout le monde que je vais rencontrer, vous n'allez pas pouvoir dire, ouais, Jésus, là, il y a pas une personne envers qui il ne s'intéressait pas. Mais souvent, on regarde notre propre vie, on regarde notre propre réalité et on peut se poser, on se demande cette question-là, est-ce que Dieu est accessible? Est-ce que Jésus est accessible? Et souvent, on est rempli peut-être de honte, de questionnement, on se dit « Ah non, moi, je mène pas une assez bonne vie pour pouvoir aller à l'église, pour avoir la présence de Dieu. Dieu ne s'intéressera jamais à quelqu'un comme moi. » Puis parfois même, peut-être que ça fait plusieurs années que tu as une relation avec Dieu, que tu es un chrétien, tu viens à l'église, mais tu as cette honte, cette peur en toi qui te dit « Ah non, je peux pas aller m'approcher de Dieu parce que en ce moment, ça va tout croche dans ma vie, puis Dieu, il devrait vraiment avoir honte de moi. Dieu ne s'intéresse pas à moi. Dieu ne m'aime pas. » On a ces pensées-là en nous. Ou même, on peut avoir cette pensée en nous que oh, Dieu, je ne pense pas qu'il s'intéresse à une personne comme ça. Elle est trop tout croche, elle, pour que Dieu puisse faire quelque chose dans sa vie, pour que Dieu puisse s'intéresser à elle. Mais Jésus, dans son opération de sauvetage, il s'assure. Il veut s'assurer qu'on comprenne que non, il n'y a pas personne. Il n'y a pas personne en qui je ne m'intéresse pas. Et puis, Jésus, comme on a vu la semaine passée, il parlait à ses disciples. Et puis, Jésus a dit, le Fils de l'homme, il parlait de lui-même. Il dit, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il annonçait à ses disciples qu'il s'en venait pour mourir à la croix. Mourir, pourquoi mourir? Parce que la conséquence des péchés, la conséquence de notre rébellion, la conséquence de notre éloignement de Dieu et de ce que Dieu nous demande, c'était la mort. c'était une mort éternelle. Et Jésus a dit, moi, je vais payer cette rançon-là que vous deviez payer à votre place. Je vais mourir, je vais donner ma vie pour vous, pour que vous puissiez avoir une relation avec Dieu. Pour que vous puissiez avoir la vie que vous êtes supposé d'avoir. Et ça, c'est Jésus qui est en train d'annoncer ça à ses disciples. Et ils s'en vont vers Jérusalem. Et si vous avez votre Bible, vous pouvez venir avec moi, Jésus, dans Marc 11. Dans Marc 11, au verset 11, Jésus est entré dans Jérusalem, et si vous lisez à partir du début de Marc 11, vous allez voir l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, qui va être acclamé sur le dos d'un âne. C'est quand même spécial, on n'a pas le temps d'en parler ce matin, mais Jésus rentre à Jérusalem, et là, dans Marc 11, au verset 11, Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Donc déjà, il y a comme Jésus qui se rend au temple, et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Jésus regarde autour de lui, mais le texte ne nous dit pas plus que ça. Jésus s'en va. Mais ce qu'on va voir, c'est que ça, c'était le calme avant la tempête. Ce qu'on va voir, c'est que Jésus rentre dans le temple et il n'aime pas ce qu'il voit. Il y a probablement toute une colère qui vient de grandir en lui. Jésus, il voit ce qui se passe. Puis là, on va apprendre qu'en ce moment-là, il est en train de constater que ce qui se passe au temple, ce n'est vraiment pas ce que lui avait en tête, ce que lui aurait aimé qu'il soit en train de se passer. Et là, on va sauter au verset 15. Mais ça, c'est le lendemain matin. Le lendemain matin, Jésus s'en va, il s'en va à Jérusalem, il retourne au temple. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Et il enseignait en disant, « N'est-il pas écrit, « Mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent et ils cherchèrent les moyens de le faire mourir. Ils le redoutaient en effet parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Si on peut juste prendre un instant ce matin pour regarder qu'est-ce que le temple signifiait pour les Juifs. À quoi servait le temple? On n'a pas le temps de regarder tous les détails, mais on voit que le temple, c'était cet endroit-là que les Juifs allaient pour prier à Dieu, pour faire des sacrifices à Dieu, pour des sacrifices pour les péchés, des sacrifices... La Bible nous parle de plein de sacrifices que les Juifs faisaient. Et même qu'au milieu du temple, il y a cet endroit qu'on appelait le lieu très saint, et que cet endroit-là, il y avait seulement une fois dans l'année où est-ce que un sacrificateur allait aller faire un sacrifice pour tous les péchés du peuple. Seulement une fois dans l'année. Et que s'il y avait une panoplie de choses à faire pour pouvoir se rendre pur et prêt à pouvoir rentrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Parce que pour les Juifs, le temple signifie ça, c'est la présence de Dieu. Et celui qui va aller dans ce lieu très saint va aller, pour le peuple, faire un sacrifice pour le pardon des péchés, pour le pardon des péchés du peuple. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui rentre, ou si le sacrificateur ne rentre pas de la bonne manière, il n'est pas bien préparé, qu'est-ce qui va arriver? Il va mourir. C'était très sévère. Et il y avait cet endroit-là qui était le lieu très saint. Mais il y avait d'autres sections dans le temple. Et une de ces sections-là, qui était quand on rentrait dans le temple, c'était ce qu'on appelait la cour des païens. Et ça, c'était pourquoi? C'est que tout le monde qui était non-juif pouvait venir au temple. Et c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Est-ce qu'il n'était pas écrit que ma maison va être une maison de prière pour toutes les nations? Mais là, Jésus rentre, et ce que les historiens ou les commentateurs bibliques croient, c'est que Jésus est rentré dans cet endroit-là, l'endroit qui était que tout le monde pouvait rentrer dans le temple, dans l'endroit réservé aux non-juifs. Les païens, c'était les non-juifs, ceux qui n'étaient pas juifs. Et Jésus voit qu'au lieu que ce soit un endroit qui est propice à la prière, propice à rencontrer Dieu, bien là, il y a plein de commerçants qui sont en train de vendre toutes sortes d'affaires, peut-être même des choses que les gens achetaient pour pouvoir aller faire les sacrifices dans le temple. Mais finalement, il n'y avait pas de place pour les non-juifs, pour les autres qui ne sont pas les juifs, qui ne sont pas le peuple de Dieu, pour pouvoir prier et adorer Dieu. Et les juifs avaient cette conception-là que quand le Messie, quand le roi des rois allait revenir pour les libérer, il allait nettoyer le temple de ces païens-là. Il n'allait plus avoir de non-juifs qui allaient avoir accès au temple parce que ça allait être seulement pour le peuple de Dieu. Et pour eux, ils comprenaient que le temple, c'était eux le peuple de Dieu, que c'était seulement qu'eux qui avaient accès à Dieu, qui étaient plutôt dignes d'avoir accès à Dieu, contrairement aux autres peuples. Mais Jésus est là et il voit, il s'indigne. Il s'indigne de voir que vous empêchez les peuples d'avoir accès à Dieu, de pouvoir prier Dieu. Et encore une fois, Jésus, au lieu de faire ce que les Juifs s'attendaient, au lieu de nettoyer le temple des païens, de débarrasser les païens de là, Jésus nettoie le temple pour les païens. Et Jésus, il dit, ce que vous faites, ce n'est pas correct. Et encore une fois, on voit ce Jésus qui veut dire à tous qu'il est accessible à tous, que Dieu aime tout le monde, que Dieu veut aimer tout le monde, que Dieu veut rencontrer chaque personne de chaque peuple, peu importe ton arrière-plan, peu importe ta vie, peu importe le montant de honte que tu as, peu importe le montant de péché que tu as fait dans ta vie, peu importe ce que tu penses, que tu crois, à ce moment, Jésus, il veut te rencontrer. Et non, il n'est pas inaccessible. Il n'est tellement pas inaccessible que Jésus, le jour qu'il est mort dans Marc 15, on peut lire au verset 37, au moment où Jésus est mort, au moment où Jésus a rendu l'âme. Cependant, Jésus poussa un grand cri. Il était sur la croix. Il était crucifié sur la croix. Au moment où Jésus poussa un grand cri, et expira. Et tout de suite, quand Jésus est mort, au moment de sa mort, la première chose que Marc nous dit qu'il est arrivé, c'est que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et le voile du temple qu'on parle ici, c'est cet endroit-là qui était la porte ou le voile qui donnait accès, non pas à la cour des païens, non pas à la cour des juifs, non pas, mais au lieu très saint. À cet endroit-là que seulement un sacrificateur, une fois par année, avait accès. Et le voile s'est déchiré en deux. Jésus est en train de dire que par sa mort, Jésus a pris notre honte, Jésus a pris notre culpabilité. Et nous avons désormais accès à Dieu, qui que nous sommes. Le temple est significatif aussi d'un Dieu qui est saint, d'un Dieu qui ne tolère pas le péché, d'un Dieu qui n'aime pas le péché. Mais Jésus nous dit, Dieu a aussi envoyé son Fils pour nous donner accès à Dieu, pour qu'on puisse avoir une relation avec Dieu, pour que notre honte puisse être enlevée, pour que notre culpabilité puisse être enlevée. Aujourd'hui, on a 4 personnes qui vont se faire baptiser, qui vont nous raconter comment est-ce que Jésus a intervenu dans leur vie, comment est-ce que Jésus est devenu leur sauveur. Et on parle dans cette série « Opération sauvetage ». De quoi est-ce que Jésus vient nous sauver? De quoi est-ce que Jésus est venu nous sauver? Oui, Jésus nous donne accès à Dieu. Jésus vient pardonner nos péchés. Mais quand Jésus dit qu'il est venu payer la rançon pour nous, c'est que Jésus vient nous sauver d'une séparation avec Dieu. Jésus vient nous sauver d'une mort éternelle. Et oui, on va tous mourir à la fin de notre vie. Mais la Bible nous dit qu'on va soit mourir et passer l'éternité avec Dieu dans la joie, dans la paix, dans l'amour des uns des autres, dans l'amour de Dieu, ou on va passer l'éternité séparés de Dieu dans la souffrance et dans l'angoisse. Et c'est la plus grande tragédie de cette souffrance, c'est qu'on ne seront pas avec Dieu. Et ce que Jésus est en train de nous dire tout le temps de son temps sur la terre, c'est regardez à quel point je suis bon, à quel point je suis aimant, à quel point je suis la solution à tous vos problèmes. Et moi, je veux passer toute l'éternité avec vous. Et c'est ce que Jésus est venu faire à la croix. C'est ce que Jésus est venu faire à ce moment-là. Et nos quatre baptisés vont venir nous partager comment est-ce que Jésus a intervenu dans leur vie et il est devenu leur sauveur. Comment est-ce qu'il a pardonné leurs péchés, comment est-ce qu'il est devenu le maître de leur vie. Ces gens-là, aujourd'hui, quand ils vont se faire baptiser dans la piscine qui est ici, ou dans le baptistère pour les plus vieux, ces gens-là, ils s'en vont, c'est un symbole, ils s'en vont témoigner, ils s'en vont s'identifier à ce que Jésus a fait pour eux. Ce que je veux qu'on comprenne ce matin, c'est qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour avoir l'approbation de Dieu, ou il n'y a rien que je puisse faire pour mériter mon ciel ou mériter d'être une meilleure personne. Ce que Jésus veut qu'on comprenne, c'est qu'on doit reconnaître qu'on a besoin de lui, puis il est disponible pour nous transformer, pour nous donner une nouvelle vie. Et ces gens-là vont témoigner de cette vie-là que Jésus leur a donnée. Ces gens-là vont témoigner de ce que Jésus est en train de faire. Donc le baptême, c'est un symbole. C'est un symbole de ce que Jésus a fait pour nous. C'est une démonstration de que Jésus est mort pour nous, que Jésus est ressuscité le troisième jour. Et maintenant, la Bible nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, il n'y a rien de spécial qui se passe autre que de démontrer, de s'identifier. Et ces gens-là veulent le dire publiquement, je suis un enfant de Dieu et je veux le démontrer. Et ça, c'est tout. Un baptême, là, c'est un party pour les chrétiens. C'est un party ce matin parce qu'on célèbre que Jésus a transformé des vies et qu'il le fait encore aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on prenne un temps pour prier. Et si ce matin, en écoutant ce que le message que tu as entendu, tu vis cette honte en toi, il y a cette culpabilité que tu vis, que tu aies déjà fait la connaissance de Jésus comme ton sauveur ou non, je t'encourage ce matin à venir avec moi dans la prière et à dire à Dieu que tu vis et que tu sens cette culpabilité-là. Si tu sens que Dieu est inaccessible, si tu sens que tu es tellement loin de Dieu puis que c'est impossible pour toi de t'approcher de Dieu, je te demande ce matin au moins de le dire à Dieu dans la prière. Et Dieu entend la prière. Et j'aimerais ça prier pour toi pendant que l'équipe de louanges s'avance. Seigneur Jésus, merci pour nos quatre baptisés qui vont passer ce matin et qui vont témoigner, qui vont partager ce que tu vas faire, ce que tu as fait dans leur vie. Et Seigneur, on veut te remercier, on veut t'adorer, te louer pour ça, parce que ils ont goûté à ton amour, ils ont goûté à la joie de t'appartenir, ils ont goûté à ton pardon. Et Seigneur, je te prie que ce matin-ci, quelqu'un est ici, qu'il vit cette culpabilité, cette honte, qu'il ait ce sentiment que tu es inaccessible, que tu ne t'intéresses pas à lui ou que tu ne peux pas le pardonner. Qu'elle n'est pas assez bonne pour que Dieu l'aime. Seigneur, mets cette vérité dans nos cœurs, qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour que tu nous aimes plus. Et il n'y a rien qu'on a fait pour que tu ne nous aimes pas, Seigneur. C'est ton œuvre à toi, c'est ta performance à la croix qui nous rend acceptables devant Dieu. Et je te prie qu'une personne de plus ce matin puisse vivre cette vérité-là pour elle. Je te prie que chaque personne ce matin qui vive cette honte, cette culpabilité, se rappelle qu'il n'y a plus de condamnation en toi et que tu es là pour cheminer avec eux. C'est ma prière ce matin et je te prie que tu puisses vraiment faire ton œuvre dans notre vie, dans la vie de chaque personne qui est ici. Amen.
Bonjour tout le monde. Moi, mon nom, c'est Denise Laflamme Farthing. Farthing, c'est le nom de mon mari, mais j'en suis fière. Puis, justement, aujourd'hui, vous ne savez pas, mais c'est notre premier anniversaire de mariage à Art et moi. Merci. J'aimerais qu'on rencontre mon frère Jacques Laflamme, mon fils Alain Lavergne, les personnes de Art qui sont Dasha et David. OK. Voilà. Ce qui est arrivé dans ma vie, c'est que j'ai élevé trois enfants, un homme et deux femmes. Mais les deux femmes, bien, ils ont produit des enfants. Et puis, ça a fait finalement 4 petits-enfants. Puis les petits-enfants, bien, eux autres aussi, ils ont décidé de faire des enfants. Fait que résultat, bien, je suis rendue arrière-grand-mère de 2 enfants, puis il y en a un autre qui s'en vient. OK. Quand j'étais jeune, j'étais catholique. Mais par des choses qui m'appartiennent, j'ai fini par renier cette religion. Et puis, j'ai décidé que Dieu n'existait pas, puis le Christ non plus. Fait que ça, c'était mon gros péché. Disons que... Bon, je vais enlever mes lunettes, puis je vais voir quelque chose. En 2018, mon copain, avec qui je vivais depuis 12 ans, a appris qu'il avait un cancer de la gorge, et en plus, il devenait aveugle. Il a fait des traitements de radiothérapie, mais quelques mois plus tard, il est décédé. C'est comme ça que j'ai commencé à boire plus de vin et fumer plus de cigarettes. Et puis, je ne mangeais pas. Et puis, finalement, je pesais seulement 62 livres. Ma fille Julie m'a dit, « OK, une ambulance s'en vient, est en chemin. Tu embarques dedans ou bien tu meurs dans 2 jours. » J'ai été hospitalisée pendant 3 mois, sans boire aucun alcool, ni fumer une seule cigarette. Puis maintenant, je bois plus, puis je fume plus. Au bout de 3 mois, mon médecin m'a dit que je pouvais partir, mais de ne pas retourner dans mon appartement. Et il m'a suggéré d'aller en résidence et j'ai accepté. C'est ainsi que je me suis trouvée au village Riviera le 19 mai 2017. J'étais une nouvelle personne et j'avais décidé que je me ferais des amis. Alors, je disais bonjour à tout le monde. J'avais toujours un sourire puis je me suis fait beaucoup d'amis. Le 16 septembre, un nouveau client est arrivé et il était anglais. Il va devenir mon mari, hein? Son nom est Arthur William Farthing. Mais on doit l'appeler Art parce qu'il n'aime pas se faire appeler Arthur. C'est un homme fantastique, très religieux et qui n'a pas peur de dire qu'il est un baptiste. Il croit en Dieu et en Jésus-Christ. Il connaît sa Bible par cœur et il n'a pas peur de parler religion. Il n'a pas peur de mourir car il sait qu'il a une place là-haut. Je l'écoutais parler et je l'enviais. Au bout d'un an, j'avais décidé que je deviendrais une chrétienne. À un moment donné, je lui ai conté mon séjour à l'hôpital et le miracle que les médecins avaient accompli. Il m'a répondu, « Le miracle des médecins, il a été accompli par Jésus-Christ qui les a inspirés. Il savait que tu devais vivre parce que tu avais droit au bonheur et puis le bonheur t'attendait. C'est à ce moment qu'il m'a annoncé qu'il allait me marier. » Il ne me l'a pas demandé, là, il m'a l'a annoncé. Il m'a demandé « mariage civil ou religieux ?» J'ai répondu « religieux avec un pasteur baptiste ». On a été à cette église ici pendant 1 an. Et la première fois qu'on est allé, c'était une journée baptême. Quand on est sorti de l'église, j'ai dit à Art « je veux être baptisé ». Je me rappelle un sermon qu'un pasteur a conté. C'était dans la Bible, Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Une femme avait un problème de sang depuis 12 ans et était considérée comme impure. Quand elle a vu Jésus, elle a touché ses vêtements. Jésus a demandé qui avait fait cela. Et la femme tremblante et peureuse lui a dit la vérité. Jésus a dit, « Fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois guérie de cette plague. » Ce témoignage m'a rappelé mon miracle. Voilà, je suis une enfant de Dieu et je voulais partager mon bonheur avec vous avant d'être baptisée.
Bonjour. Hop. Est-ce que ça marche? On m'entend? Bon, là, là, ça manque une photo. Voilà. Des bonnes choses viennent de la forêt noire. Moi, je suis née dans la région de la Forêt Noire en Allemagne. Monika Heydrich. Mais maintenant, Monika Trottier, depuis mon mariage avec Serge. La moitié de la population d'Allemagne est catholique et presque toute l'autre moitié est protestante. En Allemagne, on dit évangélique. Donc, mes parents m'ont fait baptiser quand j'étais bébé. Et comme c'est la coutume, à l'âge de 15 ans, ils m'ont envoyé au cours de confirmation. Quel enfant ado dirait non quand il y a un gâteau à la fin de cette journée de confirmation? Donc, mon frère et moi, certainement pas. Donc, j'avais une enfance et une adolescence tout à fait normales, comme la plupart des autres de mon âge. C'était plus tard que Dieu a changé le cours de ma vie. En effet, il m'a fait rencontrer en Allemagne Serge, l'amour de ma vie, qui vivait au Québec. Plusieurs années plus tard, Dieu nous a accordé notre plus grand désir, avoir un enfant, et c'est là que j'ai compris que Dieu m'aimait. Toutefois, ce sont les grands défis dans ma vie qui m'ont conduit de plus en plus vers Dieu. Je citerai entre autres les événements traumatisants, tels que la longue maladie et le décès de mes deux parents en Allemagne, l'incapacité d'assister à leurs funéraires, mais aussi la longue attente de presque 10 ans pour finalement avoir notre fille Naomi, qui est là-bas. J'aimerais citer ici un passage de la Bible qui, aujourd'hui, reflète bien ce que je vivais à l'époque. Vous serez peut-être surpris un peu, c'est Hébreux 10, 35 à 36. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous êtes promis. Au travers de tous ces événements que j'ai vécu, j'ai finalement compris le message de l'Évangile, que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. J'ai donc reconnu que je suis pécheur et maintenant, c'est uniquement par la foi dans le sacrifice de Jésus que je suis pardonné et sauvé. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aime beaucoup ce verset, Jean 3, 16, car il exprime bien clairement cette vérité. Pour terminer, j'aimerais remercier des gens aussi. Ma collègue de travail, Lise Couture-Richard, qui est présente aujourd'hui, car c'est elle qui m'a introduit à l'église Le Sentier. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que je me sente à la bonne place. Merci, Lise. Tu as joué un rôle important dans ma vie en m'aidant à grandir dans ma confiance en Jésus. C'est à l'église ici que j'ai appris à lire plus la Bible et à apprendre ce qui est écrit au sujet du baptême. Baptême, c'est Taufe en allemand. Quand j'étais bébé, j'ai été baptisée par le choix de mes parents. Mais aujourd'hui, j'ai décidé volontairement de me faire baptiser, c'est-à-dire par immersion, pour démontrer et confesser publiquement mon obéissance et ma foi en Dieu. Merci.
Bonjour Sarah, ça va bien?
Oui.
OK, alors on va se tourner vers eux là. C'est... Alors moi je te connais quand même assez bien, est-ce que tu aurais un petit mot de présentation pour ceux qui ne te connaissent pas?
Oui, bien sûr. Je m'appelle Sarah Germain, j'ai 27 ans. Je ne suis pas habituée. j'ai 27 ans. Mes parents sont ici pour venir me voir. Je suis mariée avec Jimmy Laforme, qui est aussi dans la salle. Je suis la deuxième fille, la seule fille, hein, deux gars. donc, c'est ça. Là, pour,
okay. Ouais. Ben, oui, je sais que bon, tu es assez discrète. Ça fait plus de deux ans que tu viens ici à l'église, mais on ne te connaît pas beaucoup. Mais aujourd'hui, tu as décidé de briser la glace et tu es ici. Félicitations pour ça. Et est-ce que tu peux me dire en quelques mots comment tu es venue à rencontrer Jésus dans ta vie?
Oui, moi, j'ai toujours grandi dans une famille chrétienne. Pour mes parents, c'était important qu'on ait une bonne éducation, mais surtout qu'on connaisse Dieu personnellement. Notre côté spiritualité, c'était très important. Donc, j'ai toujours su ce que Dieu avait fait pour moi dans ma vie. J'ai comme perdu mes lignes. Fait que j'ai toujours su qu'est-ce que Dieu avait fait pour moi.
OK. Mais c'est bien, en tout cas. Je suis content de savoir que tes parents sont là. Entre autres, là, je vous un petit aparté. Les parents de Sarah lui avaient dit que, désolé, ils ne pouvaient pas assister à son baptême. Et ce matin, je viens dans la salle, je vois deux inconnus, je les approche et dis, chut. Nous sommes les parents de Sarah. Donc, ils sont là ici ce matin, vraiment. Bravo à tes parents. Ils sont là, ils sont partis de Trois-Rivières depuis à peu près, je pense, 1h le matin. Alors, en tout cas, on est vraiment contents qu'ils soient avec nous ce matin. Et je sais que tes parents ont fait beaucoup dans ta vie, dans la vie de tes frères aussi. Qu'est-ce qui s'est passé personnellement pour toi? Quand est-ce que tu as décidé personnellement de mettre ta confiance en Jésus et de le suivre?
Moi, j'ai décidé environ vers l'âge de 10 ans. Mes parents m'expliquaient la mort de Jésus avec des mots simples pour que je puisse bien comprendre ce qu'il avait fait à la croix pour moi. Ils m'expliquaient que Dieu était mort pour moi afin d'être lavé de mes péchés et surtout que je puisse être avec lui. Donc, pour moi, c'était inévitable, même c'était l'évidence même, que si je voulais être avec Jésus, il fallait que je l'accepte dans ma vie. Donc,
Que s'est-il passé par la suite, alors?
Bien, c'est sûr que, bon, comme tout ado, il y a eu des périodes de rébellion, de questionnement.
Ah bon?
Oui. Oui, en effet. Donc, j'ai eu beaucoup de recherches un peu sur l'identité de Dieu, l'identité de qui j'étais par rapport avec Dieu. Donc, j'ai passé par toutes sortes de périodes. Fait que même si je tassais Dieu de ma vie, puis je ne suivais pas ses commandements, puis que... Je disais, bon, plus tard. Lui, il ne me tassait jamais de sa vie. Il comblait le vide en moi. Il m'aidait à changer d'attitude. Il changeait mon cœur. Il était toujours présent pour moi. Il me protégeait.
Je sais que tu m'as raconté beaucoup d'expériences là de ça, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, est-ce que tu peux me donner un exemple concret de comment Dieu te protégeait au travers de tous ces moments?
Oui. Quand j'ai eu 17 ans, bon, j'ai dû quitter l'île familiale qui était en campagne, donc je devais aller en ville pour continuer mes études. Et bon, je ne savais pas où rester à ce moment-là. Donc, j'étais une soirée à de la jeunesse à l'église et j'ai rencontré... une autre chrétienne que je connaissais juste de nom, qui ne faisait pas naturellement de ma clique, on va dire, là, qu'on ne se côtoyait pas. Et elle m'a invitée à devenir sa coloc, à chercher une. Fait que j'ai accepté. Et je crois que Dieu a vraiment mis sa main sur ça, parce que tout le long, je pense que Dieu savait que j'avais besoin de quelqu'un de chrétien pour être là quand que j'en aurais eu besoin. Une personne qui pourrait me soutenir dans la prière, être là dans les moments les plus difficiles. Et ça fut les 4 plus belles années de ma vie avec cette personne-là. Ouais.
Ouais. Je sais que bon, tu dis que tu connais, il y a beaucoup de passages que tu aimerais partager, mais je dis, on n'a que très peu de temps. Mais est-ce qu'il y a un en particulier que tu as à cœur, que tu aimerais réciter ou nous raconter ce matin?
Oui, je vais le lire. En fait, c'est un passage d'Ésaïe, 41, versets 9 à 10, parce que ça exprime vraiment bien ce que j'ai ressenti et que je ressens toujours. Ça dit, « Je t'ai choisi et ne te rejette pas. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens par ma main droite, la main de la justice.
Amen. Ah ben, c'est bien ça. Et pourquoi tu veux te faire baptiser ce matin?
Parce que Jésus-Christ est mort complètement sur la croix pour moi. Alors, je ne veux pas le faire à moitié. Moi, je veux vraiment le suivre totalement. Donc, c'est pour ça que je veux faire baptiser ce matin. C'est aussi un moyen de dire devant tout le monde que c'est ce que j'ai choisi.
Amen. Alors, on est content pour ça. Et puis, au début, tu disais que c'est à l'âge de 10 ans à peu près que tu as dit à Jésus que tu veux le suivre. Je sais que dans la salle aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes de 10 ans ou un peu plus, des ados, des pré-ados, et qui ont des parents chrétiens aussi comme toi. Est-ce que tu aurais quelques conseils, là, petits conseils à leur donner?
En fait, j'en ai 4. Ben, je l'ai dit en rafale. Premièrement, pour des enfants qui ont un petit peu plus de misère de se concentrer à lire une Bible, des fois, ça peut être difficile. Pour attirer leur attention, ils offrent des Bibles en images, même des mangas qui ont sorti. C'est vraiment génial parce que ça permet de captiver l'enfant. Bon, c'est sûr qu'il va falloir changer pour une Bible normale, traditionnelle, mais ça peut quand même porter à aller voir et la curiosité, à aller chercher la curiosité de l'enfant. La deuxième, c'est que les enfants participent aux soirées de la jeunesse, les activités. C'est très important qu'un enfant puisse avoir des liens entre enfants parce que ça bâtit leur réseau alentour, leur réseau de protection. La troisième, ce qui sort de leur clique. Moi, j'ai eu la chance incroyable que cette amie vienne me parler à l'église. Et j'ai eu une très belle amitié. Je l'ai toujours avec cette personne-là. Et ça demande d'aller voir les autres. Donc, ça aussi, sortir de notre clique, c'est toujours important. Puis, la dernière conseil, bien, c'est plus une note humoristique, mais quand même vrai. Les consoles de jeux vidéo, Xbox, tout ça, ça compte pas comme des amis. Donc, voilà.
Je pense que ces dernières-là, ce n'est pas juste pour les enfants. Hein? En tout cas, merci beaucoup, Sarah.
Merci à toi.
Et que Dieu te garde, oui. Que Dieu te bénisse. Merci bien.
Okay. Bon, ben, c'est ça. Donc, je vais m'introduire parce que personne ne l'a fait. Je m'appelle. je m'appelle Florian Coudjonou. J'ai 19 ans. Puis aujourd'hui, j'ai la chance de vous raconter comment Jésus a transformé ma vie. Donc, j'ai eu le privilège d'être né dans une famille chrétienne. J'ai donc grandi dans un contexte où la parole de Dieu a été enseignée puis respectée le plus possible. Puis quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été vu comme le garçon parfait. J'allais à l'église tous les dimanches et j'avais presque toujours les bonnes réponses aux questions bibliques. Les parents de mes amis me disaient souvent que j'étais très poli puis bien élevé. Puis j'avais des bonnes notes à l'école, j'étais sportif en bonne santé. Puis j'étais plutôt poli puis respectueux avec mes parents. Puis avec tout ça, on aurait vraiment pu dire que j'étais un bon garçon. Mais toutes ces choses, bien qu'elles soient vraiment excellentes, m'empêchaient de réaliser une chose bien plus importante, mon besoin de Jésus puis mon état de pécheur. En effet, j'avais compris le message de l'Évangile, puis je savais que Dieu avait envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour sauver l'humanité en prenant sur lui tous nos péchés. Mais je connaissais les histoires, je connaissais les versets clés, les bonnes réponses, mais je ne m'étais jamais approprié cet Évangile, cette bonne nouvelle. Puis avec tous les bons commentaires que je recevais, je ne réalisais pas que j'étais pécheur alors que je l'étais totalement. C'est oui, je faisais beaucoup de bonnes choses, j'étais un bon garçon, mais je n'étais pas parfait. Comme je mentais souvent pour tenter justement de garder cette bonne réputation que j'avais. J'avais régulièrement des mauvaises pensées, puis ça pouvait se manifester en pensant en mal de quelqu'un, ou bien en étant jaloux, ou même en me croyant supérieur aux autres. Puis même si c'est juste des pensées, ces pensées sont contre la volonté de Dieu, puis sont mauvaises. Puis ça fait de moi un pécheur. Puis la Bible est claire là-dessus. Romains 6, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Mais heureusement pour moi, Dieu, dans sa grâce et sa grande bonté, ne m'a pas laissé dans cet état. Puis un jour, des missionnaires qui étaient des amis de la famille sont venus chez nous. Puis ils ont présenté l'Évangile à ma grande sœur, puis lui ont donné une Bible. Puis suite à leur décision, ma sœur a décidé de suivre Jésus. Puis même si elle vivait dans le même contexte que moi, puis elle était toujours très gentille, ben j'ai quand même vu un changement dans son attitude. Je l'ai vue plus patiente, plus douce, puis plus attentionnée. Puis en la voyant comme ça, moi aussi, je me suis dit que je voulais suivre Jésus. Puis je voulais que Dieu me transforme comme ça, puis me donne une nouvelle vie. Je voulais qu'il m'aide à arrêter de pécher. Puis je savais que si je lui demandais, il pouvait me pardonner. C'est ce que nous dit 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est donc quelques jours après sa conversion que j'ai décidé moi aussi de suivre le Seigneur. Puis à cette époque, je pense que j'avais autour de 8 ans. Puis bon, à 8 ans, je sais que je n'avais pas totalement saisi l'Évangile, mais je n'avais pas compris toutes les doctrines, mais j'avais compris l'essentiel, qui est que Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix pour prendre les péchés de ceux qui se repentent et mettent sa confiance en lui. Et c'est ce que j'avais fait. Puisque je vivais déjà en suivant plus ou moins les valeurs chrétiennes, mon attitude n'a pas vraiment drastiquement changé, mais mes motivations sont maintenant différentes. Parce que je veux faire le bien, non pas pour moi-même ou pour ma réputation, mais par amour et reconnaissance pour Dieu qui m'a aimé le premier. Puis depuis ce jour, je veux vraiment servir le Seigneur. Je me suis impliqué dans différents ministères à l'Église. J'ai aussi été staff au camp du Vélo, parce que c'est là qu'on applaudit les staffs. Yes! Puis c'était vraiment une belle expérience. Ces moments étaient vraiment bénissants. J'ai toujours été émerveillé par le travail que Dieu faisait dans ma vie. Puis je voulais toujours en apprendre de plus en plus sur lui. Puis c'est ça qui m'a poussé à aller étudier à Parole de Vie, une école biblique à Sherbrooke. Yes! J'aime ça. Puis c'est là que j'ai passé mes deux dernières années, justement. Puis c'était vraiment des années extraordinaires. J'ai tellement été émerveillé par l'œuvre que le Seigneur a faite dans ma vie. Puis j'ai énormément appris sur Dieu pendant ces deux années-là. Puis j'ai pu le voir à l'œuvre des milliers de fois. Ça a vraiment été un point tournant dans ma vie, je dirais. Ma foi et ma confiance en Dieu ont beaucoup grandi. Puis oui, c'était pas toujours facile. Ou plutôt, c'était jamais facile. Soit ramène. Mais ces deux années étaient extrêmement enrichissantes. Puis je pourrais continuer à vous en parler pendant des heures, mais on m'a dit qu'après 5 minutes, les gens commencent à se déconcentrer. Fait que je vais accélérer. Moi, en tout cas, ça, je vous encourage vraiment à venir à considérer consacrer une année entière pour étudier la parole de Dieu dans une école biblique. C'est vraiment bénissant, puis ça en vaut vraiment la peine. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir après. Puis bon, pour revenir au témoignage, donc, aujourd'hui, je vais me faire baptiser pour deux raisons principales. Premièrement, je veux respecter le commandement de Dieu, qui veut que ses enfants se fassent baptiser. Et deuxièmement, je veux démontrer publiquement ma foi en Dieu, mon Sauveur et Seigneur personnel. Merci.
Alors, on est prêt?
Oui, on est prêt.
OK. Donc, ton témoignage était très édifiant, en disant que Dieu peut venir nous chercher à tout moment, quel que soit notre âge. Et je suis vraiment reconnaissant pour ça. Je veux quelques questions pour toi, très difficiles. Est-ce que tu as mis ta confiance en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel?
Oui.
Crois-tu réellement que si Dieu vient te chercher aujourd'hui, tu seras avec lui dans son paradis?
Oui.
Suite à confession de foi, je te baptise, Denise, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Monica, quelle joie pour moi de partager ces moments avec toi. Et je suis reconnaissant de l'œuvre que Dieu a fait dans ta vie. Et Dieu est le même en Allemagne, au Québec et au Togo. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as mis ta confiance dans Jésus comme étant ton Sauveur et ton Seigneur personnel?
Oui.
Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, lorsque Dieu vient te chercher ou Dieu a quelque chose à te dire, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde?
Oui.
Est-ce que tu peux dire aujourd'hui à tout le monde ici que tu te baptises en obéissant à Dieu?
Oui.
Parce que tu obéis à Dieu, moi aussi j'obéis à Dieu qui nous demande de baptiser et je le fais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça va bien, Sarah?
Oui.
Oui, l'émotion est passée parce que tes parents sont là. OK. Alors, Sarah, on va enlever les lunettes, ça va être mieux. Alors, je suis content d'entendre ton témoignage aujourd'hui devant tout ce peuple réuni et tous les millions qui nous écoutent sur Internet. Sarah, est-ce qu'à l'âge de 10 ans, tu as fait ce choix, mais aujourd'hui, est-ce que tu confesses réellement que Jésus est toujours ton Seigneur et Sauveur personnel?
Oui.
Est-ce que tu as mis ta confiance en lui pour que, quelles que soient les circonstances qui arrivent, il soit avec toi et qu'il te guide dans tes pas?
Oui.
Est-ce que tu peux affirmer devant tout ce monde aujourd'hui que tu appartiens à Jésus et que tout le temps qu'il te donne sur cette terre, tu seras son enfant.
Ah oui.
Par sa grâce. Oui. Alors, je suis content que tes parents soient témoins de ça et ton mari aussi. Alors, je te baptise en obéissance à Jésus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, je ne sais pas pourquoi les enfants doivent être plus grands que leur papa. Hein. En tout cas, on l'a bien nourri. Alors, fiston, ça va bien?
Ouais.
Ouais, je suis content de partager ces moments de joie avec toi et avec tous tes amis. Et est-ce que à l'âge de 7-8 ans, lorsque tu as pris cette décision, c'est vrai que tu ne te rendais pas compte, mais aujourd'hui, est-ce que tu peux confirmer que c'est une décision que tu as prise et qui restera pour toujours?
Ouais.
Est-ce que tu as mis ta confiance en Jésus et qu'il est non seulement le Seigneur et Sauveur de tes parents, mais ton Seigneur et ton Sauveur personnel?
Oui.
À cause de ta confession de foi et de ton obéissance, j'obéis aussi au Seigneur en te baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.